Bonsoir à tous. Merci d'être là avec nous ce soir pour discuter du beau livre de Jean-Marie Blas de Robles, Le rituel des dunes, qui, comme la plupart de vos romans, est donc paru chez Ulma. Vous aviez notamment fait paraître le fabuleux Là où les tigres sont chez eux, qui était paru en 2008, qui avait obtenu le prix Médicis, le prix Fnac et le prix Jean Giono. Vous publiez aussi, on vous connaît surtout pour vos romans, mais vous publiez aussi des essais, notamment dédiés à l'archéologie, des nouvelles et même de la poésie, une pratique d'écriture donc très variée, sur laquelle peut-être on aura l'occasion de revenir un peu. En 2017, vous étiez déjà venu ici, chez Mola, parler de votre dernier livre à l'époque, Dans l'épaisseur de la chair, qui était donc, pour ceux qui ne l'ont pas lu, un roman qui, au-delà des aventures qu'il racontait, rendait aussi, peut-être surtout, un hommage à votre père et à son parcours. Donc aujourd'hui, la librairie Mola et moi-même, nous sommes ravis que vous reveniez nous dire quelques mots de votre dernière parution, Le rituel des dunes. Un roman, mais peut-être, on va en discuter, peut-être qu'il y a plus d'un roman à l'intérieur de ce roman-là. Un roman donc qui se passe en grande partie en Chine, dans les années 80. Et évidemment, nous allons revenir sur l'histoire et sur la structure du livre, qui est extrêmement pensée, que j'ai trouvée à titre personnel tout à fait passionnante. Mais j'aimerais, si vous en êtes d'accord, commencer en fait par autre chose. J'ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait de votre dernier roman. Et c'est à la fois vrai et en même temps, c'est pas du tout vrai. Puisque en fait, ce texte, certains ici le savent peut-être, est une reprise, pour éventuellement discuter du mot. En tout cas, d'après ce que j'ai compris, c'est un texte que vous avez entièrement remanié, mais que vous aviez fait paraître, c'était votre deuxième roman à l'époque, aux éditions du Seuil en 1989, déjà sous ce titre-là d'ailleurs. Est-ce que peut-être vous pouvez nous dire ce qui vous a motivé à reprendre ce texte, pourquoi maintenant, et puis comment vous avez abordé cette réécriture ?
Alors, oui, merci à tous d'être là. Il s'agit effectivement de ce qu'on ne doit pas appeler une réédition. Alors, un auteur est toujours content lorsque son éditeur lui propose de rééditer un texte qui n'est plus accessible, ce qui était le cas de ce roman, Le rituel des dunes, qui était paru en 1989. Et n'existait plus en librairie pratiquement depuis. Et comme vous le savez peut-être, je construis une mosaïque romanesque et tous mes livres sont importants dans ce puzzle. Et donc c'était important pour moi d'avoir ce livre, enfin, de rendre ce livre accessible de façon à ce qu'on puisse voir ce travail de construction où les livres se répondent les uns les autres. Ce livre avait été écrit avec deux autres qui l'ont précédé, avant Là où les tigres sont chez eux, mais les personnages qui se trouvent à l'intérieur de Là où les tigres sont chez eux sont déjà présents dans les livres qui précédaient les tigres. Donc ça permet de compléter, c'est ce travail qui est à l'œuvre et qui explique pourquoi j'étais si content lorsque mon éditrice a fait ce à quoi rechignent tous les éditeurs, proposer une réédition parce qu'ils savent que ça se vend moins bien qu'une nouveauté, etc., etc. Ça pour la réédition. Il se trouve que ce livre, j'en étais pas très content déjà. Alors je passe pas mon temps à me relire, je l'avais relu il y a 10-15 ans une fois, et puis j'avais déjà vu des défauts de structure qui ne me plaisaient pas, qui faisaient que ce livre ne fonctionnait pas comme je l'aurais voulu. Et sachant cela, je m'étais servi de certains passages de ce livre pour les intégrer à des romans qui sont parus depuis. Donc en fait, ce livre avait des trous. J'avais enlevé une trentaine de pages pour l'intégrer à d'autres travaux. Donc de toute façon, il était impossible de publier ce livre tel qu'il était au départ. Et comme mon éditrice m'en laisse à chaque fois que je le fais la possibilité et même contente que je le fasse, je me suis emparé de ce livre et je l'ai réécrit comme si je l'écrivais aujourd'hui. Et donc, au lieu de remplir le trou que j'avais moi-même provoqué, j'ai agrandi le trou, j'ai enlevé un tiers complètement du livre qui existait au préalable, et j'ai reconstruit une structure et une narration avec le même décor, avec les mêmes personnages, en utilisant, bien sûr, du texte déjà préécrit, mais reboulonné, réécrit, resserré avec la compétence qui est la mienne aujourd'hui, qui est, je l'espère, supérieure à celle que j'avais il y a 30 ans. Ce qui fait qu'à la fin, il y a un livre dont je suis fier aujourd'hui, comme si je l'avais écrit cette année, parce que c'est la langue telle que je la maîtrise aujourd'hui, c'est la vision romanesque qui est la mienne aujourd'hui, etc., etc. Et puis l'exigence surtout d'écriture qui est la mienne aujourd'hui et qui se retrouve dans ce livre comme dans le précédent, par exemple.
Oui, d'ailleurs, ça donne des effets pour le lecteur tout à fait étonnants, parce que pour ceux qui connaissent Là où le tigre sont chez eux, effectivement, vous disiez qu'il y a des personnages qui se recoupent. On a l'impression, comme ce livre arrive maintenant, qu'en fait, vous avez repris des personnages de Là où les tigres sont chez eux, alors qu'en fait, c'est le contraire.
C'est exactement le
Donc
contraire.
Donc, il y a un bouleversement de la temporalité, en fait, de la lecture, qui finalement, je trouve, colle assez bien à la manière dont vous imbriquez au sein d'un même roman différentes histoires. Et je trouve, j'adore votre formule de dire, bon, quand il y a un trou, plutôt que d'essayer de le combler, on va aller agrandir le trou. Et je me demandais si finalement, c'était pas un peu le même type de fonctionnement que ce que l'écriture fait de toute façon avec la mémoire. Comme si, parce que bon, le livre, en l'occurrence, se passe en grande partie en Chine. Vous avez vécu en Chine. J'imagine, un peu comme la plupart des écrivains, que vous devez travailler aussi avec des choses vécues. Il est clair que la mémoire qu'on a d'une période vécue n'est pas du tout la même quand il y a une ou deux années de différence, ou quand il y en a 30, voire 40. Et est-ce que l'écriture, à ce moment-là, vient compléter la mémoire, ou est-ce qu'au contraire le romanesque va venir là pour ouvrir la mémoire et essayer de partir à partir de là?
Alors, la mémoire. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je suis persuadé qu'il est impossible. Je réponds à l'envers, en fait.
Oui,
je vais retomber sur mes pattes, je l'espère. Je suis persuadé qu'il est impossible d'inventer quoi que ce soit. Et ceux qui prétendent le contraire sont des menteurs.
Parce Ils inventent.
Je vois bien comment ça fonctionne chez moi. Je vois bien comment fonctionne même la mémoire elle-même, notre mémoire. On est capable à 10 personnes, de raconter quelque chose qu'on a vu de 10 façons différentes, ce qui veut dire qu'il y a une réinvention, une réécriture à chaque fois du vécu, du soi-disant réel, par une personne, voire par 10, voire par 15, d'où les témoignages qui ne concorde pas devant un accident. Ben non, il avait une chemise jaune. Ah, il avait une chemise bleue. Elle est où, la mémoire? Où est le réel? Là, où est la construction et l'authenticité? Où est la fiction? Où est l'invention, le réel, etc. C'est pareil quand on est en face de sa feuille blanche et qu'on veut raconter une histoire. Moi, mon but, c'est de raconter des histoires, surtout pas la mienne, mais vraiment un travail de conteur, raconter des histoires comme j'aime en lire. C'est-à-dire fabriquer un livre qui puisse me captiver, m'emmener dans d'autres mondes, comme les livres que j'aime lire comme lecteur parviennent à le faire. C'est ça que j'essaye de faire. Je ne pars pas avec un thème, tiens, je vais... Pour moi, c'est trahir la littérature, tout ça. Ce n'est pas illustratif. Et comme je le disais, inventer, c'est quoi ? Inventer, c'est faire du collage à la Max Ernst. Vous voulez inventer un monstre pour une tentation de Saint-Antoine, un monstre, donc quelque chose qui a priori n'existe pas, vous faites comment ? Ben, vous ne pouvez pas le sortir comme ça de rien du tout. Vous êtes obligé d'aller prendre une patte de tigre, une aile de chauve-souris, une plume de je ne sais quoi, de paon, et c'est ce collage, à partir du choix précis que vous avez fait de ces petits morceaux, qui crée un monstre, qui crée la littérature, qui crée l'imaginaire. C'est exactement la même chose pour écrire un livre. Je me sers à la fois, bien sûr, d'une somme de petites expériences vécues, mais c'est une minorité par rapport à l'ensemble de ce qui est accumulé dans mes carnets, qui sont aussi bien des petites notes de lecture, des notes de ce que j'ai pu voir, des notes concernant des historiettes qu'on a pu me raconter, ma collection de faits divers, etc., etc. J'ai à peu près, sans mentir, 2 ou 3 000 pages de notes comme ça que je continue à abreuver, et que je consulte et que je relis régulièrement, qui sont une espèce de fond de soupe où il y a mille et une histoires potentielles en une ligne. Et c'est en lisant, en relisant ces notes, que tout à coup, telle et telle bribe de choses, réelles, pas réelles, vécues, pas vécues, s'agglomèrent. Et finissent par donner quelque chose susceptible de s'intégrer à une histoire. Donc vous voyez que la mémoire, là-dedans, joue peu. Parce que pour moi, la mémoire, c'est de la reconstruction. Ce serait important, c'est important, la mémoire, quand on a le souci de l'authenticité. Dans mon précédent roman, par exemple, qui est construit de la même manière. Pour moi, c'est autant une fiction que celui-là ou les précédents, même si le matériau concerné, la documentation familiale et le fait que je sois pied noir et que mes parents soient nés en Algérie, moi-même aussi, etc. Donc, bon, je m'étais servi de cette documentation-là pour en faire un véritable roman où il y a autant d'inventions, sinon plus, que dans un roman qui ne touche pas à ma biographie. En revanche, ça touchait à la guerre d'Algérie. Ça touchait à l'authenticité des faits, à la mémoire... vivante, à la mémoire vivante de la blessure de part et d'autre de la Méditerranée, etc. Et là, oui, là, j'y vais avec des pincettes, et là, je me barre de documentation, je vérifie mes sources mille et une fois, pour ne pas dire de bêtises, parce que la marge d'invention par rapport au devoir d'authenticité de la mémoire est très très restreinte.
Oui, je comprends bien. Cela dit, pour que le récit s'enclenche, dans ce livre-là, et là on va peut-être en venir un tout petit peu à une ligne narrative pour qu'on dise deux, trois mots du contenu, votre personnage masculin principal, Rutgen, se souvient. C'est-à-dire que le récit s'enclenche parce qu'il se souvient de ce qui lui est arrivé quand il débarque donc à Tientsin, en Chine, à l'Institut de langue où il va enseigner.
Il se souvient, mais il se demande bien pourquoi il se souvient.
Oui,
parce qu'il ne se souvient pas de la Chine, de tout ça. Il se souvient d'une personne, dont il ne devrait pas se souvenir parce qu'elle est noyée dans les mille et une personnes qu'il a pu connaître ou les mille et une histoires qu'il a pu vivre pendant les deux années qu'il a passées en Chine. Et ce qui l'étonne, c'est le début du roman, c'est qu'il se souvienne justement de cette personne-là, de cette Américaine qui s'appelle Beverly. Et là, effectivement, alors c'est pas de la mémoire, c'est un souci d'interrogation. Il va passer tout le roman à s'interroger sur cette femme et à se demander en quoi il a manqué cette femme, en quoi il est passé à côté de l'étrange et inquiétante étrangeté de cette Américaine.
Oui, qui d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, mais vous disiez que pourquoi elle plutôt que les... Enfin, il y a d'autres personnages dans le livre, mais c'est vrai qu'elle joue comme ça de pivot, peut-être parce que justement, c'est un personnage qui a mille et un visages, en tout cas deux, mais mille et un visages qui permettent justement d'interroger un peu toutes les autres personnes autour. Ce que vous disiez sur le fait, il est dans cette espèce d'inquiétude de pourquoi est-ce que j'ai manqué cette femme, et j'ai trouvé qu'il y avait un souci dans tout votre livre justement d'aller interroger les couches de ce qui se passe, mais plus profondément. Je me suis demandé si finalement c'était quelque chose qui vous venait d'une autre de vos activités et de vos intérêts, à savoir l'archéologie. S'il y avait un lien là, d'une interrogation portée sur la sédimentation des choses et des événements.
Si ce lien existe, il n'est pas conscient. Mais je crois que c'est simplement parce que l'archéologie, dans son travail de stratigraphie, a à voir avec la mémoire, a à voir avec le retour à l'origine, a à voir avec ce travail d'enquête sur le réel, et l'imposture, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui n'est pas réel, est-ce que je peux vraiment dire ça, etc. Bon, c'est... Il faut forcer un peu quand même le trait pour relier le travail d'écriture à l'archéologie. L'archéologie, c'est quand même une science. Et ces histoires de stratigraphie, je les trouve personnellement très poétiques et elles m'intéressent comme écrivain, etc. Mais quand je suis au travail...
Oui, vous n'êtes pas dans la métaphore, quand vous
êtes
dans la
science. Littérature. Et je suis dans le travail de la preuve. Donc là c'est tout autre chose. Il ne faut surtout pas inventer quand on est... archéologue, même si Duby disait que les historiens étaient des rêveurs contraints. Non, mais Beverly, pour continuer sur ce que vous disiez, donc ce personnage de femme américaine, d'enseignante américaine,
plus âgée d'ailleurs que le personnage principal,
de 20 ans plus âgée que le personnage principal, elle est au-delà de sa personnalité, elle est intéressante dans la structure du livre. Et c'est pour ça que Rutgen s'en souvient, parce qu'elle a une théorie particulière sur les biographies. C'est comme ça qu'elle se présente. Vous verrez au début du livre, ils se rencontrent dans un bar. Et comment, voilà, et qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites, etc. Et ça engage, parce que Röntgen répond différemment de ce qu'elle a l'habitude d'entendre. Dans cet hôtel-là, c'est plutôt « do you buy or do you sell ?» C'est-à-dire, est-ce que vous êtes vendeur ou vous êtes acheteur ? Parce que c'est un hôtel où il y a plus de businessman, alors que lui demande simplement « qui es-tu ?» Et ça l'a fait démarrer sur sa théorie de la biographie en disant « c'est la question que je me suis posée un jour ». Et pour ça, j'ai lu toutes les biographies qui ont été écrites. Je suis allé à la bibliothèque de l'endroit où j'habitais en Amérique.
Par ordre alphabétique,
Par ordre alphabétique, j'ai commencé par A et je suis allé jusqu'à Z. Et j'ai lu comme ça pendant 2 ans toutes les biographies qu'il y avait sur ces rayons. Et donc, j'ai commencé par Louise May Alcott et j'ai fini par Zola. Et à la fin, je me suis aperçu que je ne connaissais rien sur ces gens-là. C'était pas comme si c'était des amis, des gens dont je pourrais prédire la réaction dans une situation donnée. Et du coup, elle développe une axiomatique de la biographie en disant connaître quelqu'un, qu'on écrive sa biographie ou qu'on le rencontre ou qu'on le fréquente, c'est connaître juste 2 ou 3 choses sur lui, mais c'est 2 ou 3 choses qui permettent de prédire avec un degré de précision voisinant les 100% ou les 90% comment cette personne réagirait dans telle ou telle situation. Et bon, il y a de longs développements que je vous laisse découvrir, mais c'est la question, pour le coup, que se pose Röntgen, qui est là, donc il vient de passer 2 ans au Brésil, il repart, il ne sait pas encore, il est entre le Brésil et la Chine, et il pense à ces 2 ans de Chine, il pense à cette femme, et il essaye, non pas de se souvenir d'elle, mais il essaye de trouver ces quelques éléments qui lui permettrait de dire qu'il l'a connue ou qu'il l'a ratée ou qu'il ne l'a pas connue.
Oui, d'ailleurs, bon, c'est un passage effectivement, enfin, en plus très très drôle. Enfin, moi, j'ai beaucoup ri en lisant ce passage-là, qui interroge notamment ce que finalement le passé dit ou ne dit pas de quelqu'un. Et il y a à un moment donné, Röntgen se moque intérieurement un peu de cette passion de la généalogie. Alors je trouve que c'est encore, je ne sais pas si c'était déjà dans la première version du livre, mais c'est encore beaucoup plus vrai aujourd'hui, où effectivement qu'on voit il y a cet engouement, tout le monde envoie pour avoir des tests à ADN. Et il dit quelque chose d'assez juste, à savoir, oui, enfin, il y a toujours beaucoup de monde pour se prévaloir d'un ancêtre extrêmement connu, mais par contre, les pauvres paysans ou tout simplement quelqu'un de banal, il y a beaucoup moins de monde pour faire valoir ce type de...
Bon, on n'en trouve jamais.
Voilà, c'est ça. Ça n'existe pas, en fait.
Ça n'existe pas. Là, Beverly... entre parenthèses, au cours de la conversation, voilà. Quand elle se dit Éléonore d'Aquitaine, qui était mon ancêtre, bon, c'est pas. Mais j'ai fait faire la généalogie, il paraît que c'est. Bon, ça doit pas être vrai, mais. Et tous les Américains ont. Il y en a même un qui est persuadé de descendre de Abélard, hein, sans que la particularité de ce. De ce personnage célèbre, les choquer le moins du monde.
Oui, qui passe d'ailleurs presque un peu comme l'ancêtre de l'autobiographie. C'est une des premières, à part Saint-Augustin, c'est une des premières autobiographies connues. On peut se dire peut-être que si tous ces malheurs ne lui étaient pas arrivés, il n'y aurait jamais eu cette impulsion. L'autobiographie vient toujours d'un manque. Enfin bon, voilà, donc peut-être sur cette figure de Beverly, donc, qui est effectivement très, très haute en... en couleur. Moi, j'ai trouvé que c'était très parlant qu'il se rencontre dans cette ville de Tientsin, dont, quand on entend parler des villes chinoises, à moins de bien connaître la Chine, c'est vrai que... Alors moi, j'ai appris que c'était la quatrième ville la plus grande de Chine. Je dois avouer que je ne le savais pas. Et ce qui est tout à fait palpable dans votre roman, c'est que d'une part, il se retrouve dans ce milieu d'expatriés qui, je crois, partout dans le monde, est un milieu très particulier parce qu'il y a plein de nationalités qui se croisent. Et en même temps, c'est un peu... une espèce d'enclave au sein du lieu où ils sont. Et puis en plus, Tientsin a cette particularité peut-être d'avoir été une des villes chinoises avec le plus de concessions étrangères à l'époque, ce qui fait que son architecture, enfin, l'aspect même de la ville est complètement bigarré. Enfin, j'avais une impression de cité universelle comme ça quand on entre dans cette ville.
C'est l'impression que cette ville donnait, en tout cas, parce que aujourd'hui tout ça n'existe pratiquement plus. Mais à l'époque, le centre de cette mégapole chinoise qui s'appelle Tianjin aujourd'hui,
oui,
mais qui s'appelait Tianjin à l'époque des concessions, de la guerre de l'opium, etc. La Chine venait de perdre la guerre contre les puissances étrangères, dont la France, rappelez-vous, le sac du Palais d'été, etc., etc., et avait obtenu de créer à Tianjin et à Shanghai des concessions étrangères. Ce qui fait que dans ces deux villes, il y a eu une mini-Paris, une mini-Rome, une mini-Berlin, une mini-Tokyo, une mini... Il y avait comme ça comme à l'exposition universelle, des quartiers entiers où tout était en français, avec des arcades, la rue de Rivoli, la rue de Paris, etc. Puis, hop, vous vous retrouviez au Japon avec l'architecture particulière du Japon, ou pire encore, en Allemagne, autrichienne, avec l'architecture typique de ces régions. Et c'est complètement surréaliste quand vous mettez au milieu 7 millions de Chinois en complet bleu et col Mao et des bicyclettes, et il n'y a pas de voiture, et que vous êtes projeté là-dedans, comme ça a été mon cas, effectivement, bon, à la même époque. Mais donc ce livre rend compte aussi de cette étrangeté. Je pense que c'est une succession de... C'est ça le cœur du roman dont on rend compte le titre, c'est ce rituel d'approche de l'altérité. Qui commence déjà par l'altérité de la Chine, l'étrangeté de ce pays qui n'a pas les mêmes codes que les nôtres, ni esthétique, ni rationnel, etc. Et puis c'est décliné jusqu'à l'étrangeté de l'autre comme personne.
Alors, je rebondis, c'était une question que je voulais vous poser un peu plus tard, mais comme vous parlez du cœur du roman qui tourne autour de la question de l'autre, je me permets juste de... J'aime toujours beaucoup regarder quel type d'exergue les écrivains utilisent pour leurs livres. Je trouve qu'on les oublie souvent et en général, il y a un lien quand même direct avec le livre. Je me permets juste de lire, c'est donc une phrase de Chuang Tzu.
Oui,
qui dit donc, à vrai dire, tout être est autre et tout être est soi-même. Cette vérité ne se voit pas à partir de l'autre, mais se comprend à partir de soi-même. Alors, bon, moi je connais mal la philosophie et la littérature chinoise, en revanche je connais un petit peu mieux la littérature française, et c'est vrai que nous on a l'habitude peut-être d'entendre ça ou de lire ça sous la plume d'un auteur très connu en France, ça fait vraiment penser à « Je est un autre » de Rimbaud.
Oui, mais c'est plus complexe que le.
Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer comment ça dévie?
Parce que quand Rimbaud dit « je est un autre », il pose la question de l'identité. Donc, je ne suis pas qu'un sujet, je suis aussi quelque chose de différent, je suis aussi tous les autres. Chuang Tzu va plus loin, il dit qu'il inverse complètement la chose en disant redonnez-moi le... Là, c'est Rimbaud. Tout être est autre et tout être est soi-même. Très bien, on est sujet, on croit être celui qu'on est, mais en même temps, on est différent. Ce qui est important, cette vérité ne se voit pas à partir de l'autre, mais se comprend à partir de soi-même. Donc là, on est plus... c'est Rimbaud plus Platon, plus te connais-toi toi-même.
Ça fait un gros programme.
Dans une même phrase. Oui. Et c'est effectivement la démarche du narrateur de Rodgen, qui essaye de comprendre à partir de lui-même, à partir de la détresse qui le prend dans cette nuit d'ivresse à Macao, où un typhon approche et il est là en train de remâcher ces deux années. Et il essaye de comprendre ce qui s'est passé avec cette femme.
Alors, ce qui se passe notamment avec cette femme et qui décide un peu aussi de la structure du livre, c'est que peut-être finalement, comme beaucoup de personnes expatriées ou en exil, qu'est-ce qu'on fait quand on est loin? Ben, on se raconte des histoires, entre autres. Ils vont pas faire que ça, mais entre autres, ils vont se raconter des histoires. Donc ça commence par Beverly qui lui raconte certaines choses qu'elle a vécues, ou d'ailleurs on peut à certains moments aussi se demander est-ce qu'elle a vécu ça ou pas. Et puis il se trouve que Rodgen écrit un polar. Et il l'écrit d'une manière un peu spéciale, puisqu'en fait, il l'écrit à quatre mains avec un ami qui réside à Pékin, et ils écrivent chacun un chapitre sur deux à partir des pages que l'autre leur envoie. Et il va raconter ou lire à haute voix ce polar à Beverly, mais seulement avec les chapitres dont il dispose. Ce qui fait retrouver évidemment le trou du début, et ce qui va permettre d'ailleurs à Beverly de, non seulement elle a des théories sur l'autobiographie, mais elle a aussi des théories sur la réception.
Oui, sur le travail du lecteur, parce que bon, Rodgen et Beverly finissent par jouer à se raconter des histoires. Parce que Beverly est une raconteuse d'histoire, parce qu'il y a eu cette entame sur les biographies. Elle a raconté beaucoup d'elle-même, donc elle demande en échange à Rodgen de lui raconter aussi. Et Rodgen veut bien se prêter au jeu, d'abord parce que... ce n'est pas dit réellement, mais on sent qu'il est écrivain. Il a publié une nouvelle. Il écrit, donc il a des choses à lui lire. Il lui en lit certaines, et il y a des choses qu'il est en train d'écrire, comme ce roman dont vous parliez avec un de ses amis qui habite Pékin. Et effectivement, il n'a à sa disposition que les chapitres qu'il a écrits. Et qui sont les chapitres impairs, c'est lui qui a commencé, donc il n'a que des chapitres impairs à lui lire. Et à la fin du premier chapitre, elle lui dit « Et la suite ?» Et Rodgen lui dit « Après, tu vas rien comprendre, on passe au chapitre 3, il va te manquer un chapitre. » Et là, elle a sa petite théorie... qui est la mienne, en fait. Hein. Que ça gêne pas. Que le lecteur est assez grand pour inventer lui-même, pour combler les trous entre les histoires. Et qu'on pourrait supprimer un chapitre sur deux de Guerre et Paix, ou de Madame Bovary, ou de Salambo, ou de n'importe quel gros roman... Je suis bien persuadé que le lecteur ne s'en apercevrait pas si c'était une première lecture, et relirait, au sens relié, relirait des choses qui se trouvent dans le chapitre 3 au chapitre 1 à sa façon, et se construirait une histoire comme se construit toujours une histoire un véritable lecteur.
Oui, c'est peut-être d'ailleurs, vous me faites penser, la grande force de la littérature, cette co-construction qui se fait peut-être, je ne sais pas, peut-être moins dans le cinéma où on a déjà une représentation, je ne dirais pas imposée, mais disons proposée.
Mais ça, c'est une idée que je défends, même si j'adore le cinéma. C'est quand même invraisemblable d'aller voir 20 000 lieues sous les mers fait par Walt Disney. Mon livre préféré de mes 12 ans, celui qui m'a donné envie d'être celui que je suis. Je regrette mon capitaine Nemo à moi. Il n'a pas ce visage-là. Il est irreprésentable. Il n'est que mon capitaine Nemo à moi. Il y a autant de capitaine Nemo que de lecteurs de 20 000 lieues sous les mers. Alors que le cinéma le fige d'un seul coup avec un visage ou une illustration. Et c'est vraiment amputer le livre de cette capacité et ce plaisir qu'a le lecteur de se fabriquer les traits d'un personnage, de le faire vivre à l'intérieur de soi à sa manière, c'est-à-dire de le construire et donc de participer au livre. Alors que devant un film, on est passif, tout nous est donné, le visage, le décor, on n'a plus rien à imaginer, on a juste à subir.
D'ailleurs, en vous lisant, je réfléchissais à certains discours qu'on entend aujourd'hui, en tout cas dans les milieux un peu universitaires ou même médiatiques, sur la désacralisation de la littérature, sur le fait qu'il faut faire tomber la majuscule. J'avais l'impression qu'en vous lisant, on retrouvait une très grande foi dans ce que peut la littérature, notamment autour de cette figure enfin, que vous citez, je crois, une seule fois, mais que vous convoquez, cette figure de Scheherazade, enfin, qui est convoquée à titre de la structure du livre, où souvent ils sont au lit, il y a une histoire qui va être racontée pour accompagner dans la nuit, qui fait d'ailleurs penser tout simplement aux histoires qu'on nous raconte quand on est enfant. Enfin, c'est une histoire d'enfance, en fait, la littérature. Et je me disais que finalement, c'était peut-être, mais c'est peut-être les livres que je lis, de plus en plus rare, cette foi-là.
En tout cas, c'est la mienne. Et c'est une... Je ne sais pas si c'est une foi. La littérature, pour moi, c'est une chose sérieuse. Oui. C'est pas un passe-temps. C'est pas... J'y ai engagé ma vie tout entière, j'y risque mon existence. C'est aussi c'est dit gravement, mais sinon, ce n'est pas la peine pour moi. Donc, et c'est une question de langue, c'est une question de majuscules, c'est une question de poésie, c'est le cœur de mon travail. Donc, ce n'est pas simplement de raconter des histoires, c'est la façon de les raconter qui compte, et alors je sais pas si je pense ne pas être le seul.
J'ai pas dit le seul.
J'en connais d'autres, mais c'est oui, ça peut donner l'impression, vu la masse de livres qui paraissent, que cette exigence n'est pas toujours partagée.
Et je me demandais si la manière dont vous ameniez, et ça va peut-être ensuite nous permettre de vous entendre lire un passage, la manière dont vous amenez l'acte même de raconter au sein de l'écrit, est-ce qu'il y a une volonté chez vous de réactiver ces fonctions premières de la littérature qui est orale à l'origine, d'espèce de rappel comme ça que c'est quelque chose.
Mais pour moi, c'est essentiel. Je n'écris qu'oralement, déjà. Donc, je ne suis pas le premier à le faire. Flaubert le faisait. Vous voyez, je me prends des grands ancêtres tout de suite. Parce que je parlais de poésie, ce qui compte, c'est la rythmique de la phrase, c'est la prosodie. Donc, ça ne suffit pas de me lire ma phrase, la face résonner. Donc, il y a un moment donné où je lis à haute voix, où j'invente à haute voix, que je sois avec mon stylo ou devant mon ordinateur. C'est à haute voix que ça se passe, et c'est à haute voix que c'est testé d'un point de vue rythmique et, encore une fois, prosodique. Ça veut dire que je porte effectivement une grande attention et un grand amour au rhapsode, à Homère, à toute cette littérature et à tout ce temps où la littérature n'a été que orale, où le livre n'existait pas, et où cette littérature orale avait besoin, et pour pouvoir être mémorisée, et pour pouvoir capter l'attention de l'auditeur, utiliser des techniques qui sont toujours les mêmes aujourd'hui, qui sont celles du feuilleton, qui sont celles de toute une mécanique qui fait que on crée du suspense, on crée une attente, sinon du suspense, et on diffère la résolution pas trop longtemps. Il faut, c'est des histoires de dosage pour maintenir le lecteur dans ce déséquilibre qui est aussi une délectation, mais c'est une histoire de dosage. Donc cette délectation, si elle disparaît parce qu'on l'a trop fait attendre, le livre va valser aussi. Mais c'est vrai que cette oralité était très, très importante pour moi.
Alors, du coup, est-ce que vous seriez d'accord de nous lire un court extrait qu'on vous entende si vous voulez lire le passage dont on avait parlé, peut-être à partir de la page 63.
Donc, il y a un moment donné où les autorités chinoises de Tianjin, pour faire plaisir à la communauté des enseignants étrangers qui travaillent dans les instituts de langue, à l'université, etc., invitent tous les enseignants étrangers présents à Tianjin au théâtre, chacun avec son chaperon chinois, pour aller écouter un opéra de Pékin. Et donc Rudgen se retrouve à l'opéra, dans un des trois opéras de Tianjin, pour écouter un opéra de Pékin, chose qu'il découvre. Rudgen fut pris par le charme dès les premières scènes. Le maniérisme extrême des postures et de la voix le ravissait. Il adorait le mouvement des femmes, laissant se dérouler leurs longues manches jusqu'à terre pour exprimer le chagrin ou le désaveu, et celui plus subtil encore, qui consistait à les replier sur l'avant-bras sans l'aide des mains, par de petits gestes saccadés comme des sanglots. Les brins de laine rouge sur les épées pour signifier le sang, la soie d'un drapeau vibrante au ras du sol pour l'océan, une crinière de coton brandie devant soi pour un cheval, plusieurs pas sur la Seine pour un long voyage et quatre généraux pour une armée de milliers de soldats. Marcher sur une table, c'était devenir invisible. Un homme avec un foulard noir sur le visage, c'était un mort. Avec un foulard rouge, une victime du bourreau. Un fantôme avait des papiers blancs sur les oreilles et qui sautait d'une chaise se jetait dans la mer pour s'y noyer. Tout, jusqu'au moindre regard, où 25 façons de rire et de sourire étaient ici codées, ritualisées, présentant sur les planches de vivants idéogrammes de la réalité. La musique ponctuait cette cérémonie, accentuant de façon illustrative chaque sentiment, chaque intervention ou même chaque fin de phrase. De son siège, Rödgen apercevait l'orchestre. Chacun des musiciens, rivé à son instrument, suivait l'action, hypnotisé par elle comme un pianiste improvisant sur un film muet. Les voix accomplissaient des acrobaties dans les tessitures les plus aiguës, des prouesses dissonantes qui s'étiraient, se divisaient sans fin et où la signification disparaissait dans la jouissance du son pur. Sur des écrans verticaux de part et d'autre de la scène, on projetait d'ailleurs la traduction en mandarin de ces répliques archaïques. Rödgen aimait surtout les voix de femmes, mi-gémissements, mi-plaintes d'enfants capricieux, lorsqu'elles montaient en longs miaulements érotiques, ululées à n'en plus finir, accompagnées par les stridences mimétiques des violons chinois, ah-hu et ching-hu déchaînés, les crépitements des claquettes de bois, les couinements de cornemuses des orgues à bouche. Lorsque cette cacophonie parvenait à un point de paroxysme douloureux, l'actrice résolvait la crise par trois syllabes espacées, dont elle semblait rassembler des derniers glissandis dans sa gorge, tout en se mouvant selon trois étapes déterminées. Dans un dernier coup de cymbale éclatant, elle se figeait soudain, transformée en statue fragile, les doigts pétrifiés dans une position aussi gracieuse qu'artificielle, et l'on pouvait voir ses yeux s'immobiliser en coin de manière effrayante, avec l'arrêt brusque et simultané de la musique. Suivez quelques secondes de silence qui faisait à chaque fois promesse d'éternité.
Merci beaucoup.
Je continue si vous voulez.
Vous voulez un petit peu? Peut-être éventuellement qu'on peut revenir aussi à la fin si on a, par exemple, si personne n'avait de questions, on peut peut-être vous entendre encore un petit peu à la fin. Moi, c'est une scène que je trouve vraiment très très belle parce que ça lie justement toute la question de l'écrit à la musique, au spectacle, à la scène. Et c'est vrai qu'en plus, l'entendre lu par vous, je trouve qu'on on y gagne vraiment, vraiment quelque chose. Et je me demandais si à travers cette question de l'oralité, du conte, du récit, on sent que la question des légendes et des mythes dans ce livre-là, mais je crois dans la plupart de vos livres, est extrêmement importante. Est-ce que c'est pour vous une façon de vous adresser ou de parler de ce qui serait universel, potentiellement universel? Est-ce que vous croyez à l'universel?
Mais sinon, je fais autre chose que d'écrire. Si je ne crois pas à l'universel, je crois que c'est la moindre des choses. À tort ou à raison, je me considère comme un humaniste. Et un humaniste, c'est quelqu'un qui croit que les valeurs humanistes peuvent être universelles. Et donc ça transparaît obligatoirement dans tout ce que j'écris.
C'est intéressant parce que vous parlez de valeurs humanistes qu'on sent évidemment quand on vous lit. Et en même temps, vous réussissez, et je trouve que ça, c'est pas toujours le cas, à ce qu'il n'y a aucun moment... Enfin, c'est pas du tout un livre qui fait la morale. C'est-à-dire que c'est pas... On sent bien qu'il n'y a pas de jugement face aux scènes décrites. Je donnerai peut-être quelques exemples tout à l'heure pour introduire une autre question. Mais enfin, voilà, on sent que pour vous, la littérature n'est pas là pour... peut-être là pour transmettre des valeurs, mais pas là du tout pour faire la morale.
Surtout pas, non. La littérature, elle n'est pas là pour quelque chose. Elle est là. Et elle dit des choses qui ne peuvent pas être dites autrement. C'est ça la fonction de la poésie, du roman, de la nouvelle, ou de la musique, tout, des arts en général. Ce qui est dit dans les arts est dit là parce que ça ne peut pas être dit autrement. Ça ne peut pas être dit mathématiquement, ça ne peut pas être dit historiquement, ça ne peut pas être dit sociologiquement. Ces thèmes qui sont abordés, qui sont souvent de l'ordre de l'irrationnel, de l'ordre de la spiritualité, de l'ordre de ces choses-là, sont des choses qui appartiennent à l'inexprimable, au sens logique et wittgensteinien du terme. Ce dont on ne peut pas parler, normalement, il faut le taire. Ce qu'on ne peut pas mettre en équation mathématique, selon les règles pures de la logique, ça ne fait pas sens, donc on n'en parle pas. Oui. En revanche, ça, c'est du domaine Wittgenstein. Lui, il dit de la mystique. C'est une façon de dire, c'est du domaine des arts, c'est-à-dire de là où ce n'est pas la preuve qui est importante, hein, mais les méandres et les biais qui sont pris pour tenter d'approcher cet inexprimable.
Je trouve que ça se sent dans, comment dire, dans deux choses qui reviennent dans ce livre-là. Bon, d'une part, évidemment, ce personnage de Beverly qui est très fantasque et où on comprend assez vite que va être interrogé à travers son personnage à elle, ce qui peut être de l'ordre de la folie, mais finalement peut-être être de l'ordre de la folie en chacun de nous. Enfin, je trouve que la question de la folie n'est pas posée en termes du normal et du pathologique, mais de qu'est-ce qui, en chacun de nous, à un moment donné, peut éventuellement verser, basculer. Et je trouve que cette frontière-là, extrêmement ténue, ce personnage de Beverly l'incarne de manière très, très touchante, en fait. Et je me demandais si c'était... si c'était voulu que ce soit que Rodgen se pose un peu toujours la question, mais finalement, est-ce qu'elle est folle,
hein? Bien sûr, c'est voulu. Là, vous touchez vraiment à ce qui est important pour moi, à ce pont, ce fil tendu entre le réel et la fiction, entre la normalité ou l'anormalité, entre... le miroir et ce qui reflète le miroir, entre l'anamorphose qui rétablit une déformation, où est le réel, où est de quel côté, c'est cet entre-deux qui m'intéresse en permanence, et c'est là où je place dans ce livre-là mon personnage. Il est dans cet entre-deux où il a, grâce à l'exemple de Beverly, il est amené à se poser la question non seulement sur lui-même, mais sur tout le monde et sur sa façon de voir le monde. Elle lui a appris, il se rend compte qu'elle lui a au moins appris cette chose-là.
Alors, peut-être une dernière question avant de me tourner vers la salle. Il y a quelque chose que j'ai trouvé très, très actuel dans ce livre. C'est, et je me suis demandé d'où venait cette envie de parler de ça sans en parler, parce que c'est jamais traité comme un sujet, mais c'est quelque chose qui revient comme ça. C'est le traitement fait aux animaux par les humains, et notamment en vue de les manger. Il y a de très nombreuses scènes de descriptions, de manières souvent plutôt cruelles, de préparer des différents animaux, parfois improbables, en vue d'être mangés. Qu'est-ce qui vous intéressait là-dedans ?
Ben, de vous poser la question, justement, de que certains personnages se posent et d'autres pas du tout, d'autres mangent du chien cru sans se poser des questions tous les soirs dans mon roman, et d'autres sont dégoûtés à la vue du chien qui est cloué au mur et où on choisit son morceau pour se le faire frire dans son assiette. Donc même cette posture par rapport à l'animal, et c'est vieux comme le monde, il y a une espèce de monstruosité humaine dans le traitement fait à l'animal pour sa consommation. On est à peu près les seuls, je pense, à faire ça dans le règne animal, à cuire une carpe vivante pour pouvoir la manger pendant qu'elle bouge encore et déjà cuite, ou comme on faisait au XVIe siècle, la même chose avec des oies vivantes qu'on maintenait avec des chiffons mouillés, etc., jusqu'à ce qu'elles soient parfaitement rôties, et on les servait à des cardinaux, et elles caquetaient encore pendant qu'on les découpait. Où est la perversion, là? Où est la monstruosité? C'est ça que j'essaie de pointer du doigt avec ces scènes-là. Où est la nature, là? Où est l'extérieur? Où est l'intérieur? Où est la nécessité? Où est la cruauté dans tout ça? Ce sont des questions qui sont posées au fil des contes, que vous lirez, j'espère.
Je rajoute juste une chose, c'est d'autant plus troublant que, pas toujours, mais souvent, ces scènes-là sont amenées sur un ton qui peut tout à fait être lu comme quelque chose d'humoristique. Et en tout cas, moi, à la lecture, je me prenais à être dans une disposition plutôt m'attendant à de l'humour. Et c'est vrai que dès qu'on arrive vraiment dans la scène, on se dit, ah, mais il y a... Ça fonctionne très bien, parce qu'on se dit, oui, mais en fait, je suis en train de lire quoi? En fait, c'est très, très étrange comme façon de faire. Et ça réintroduit la question de se dire, bon, bah, l'altérité, il faudrait peut-être réussir à la penser au-delà de l'espèce humaine, quoi.
Voilà. Absolument.
Je vous remercie beaucoup au nom de tout le monde, Jean-Marie Blas de Robles, d'avoir été ici avec nous pour nous parler de votre livre. Merci beaucoup.
Merci à vous et merci à tous.